France Culture. La science CQFD, Natacha Triou.
Le chien est l'un des premiers animaux à avoir été domestiqué. Au cours de cette longue histoire avec notre espèce, il est devenu expert pour décoder les émotions humaines. Que sait-on de ses facultés cognitives ? Au fil de sa domestication, le chien s'est doté de nouveaux muscles faciaux pour exprimer des émotions proches des nôtres. Hausser les sourcils, esquisser quelque chose qui ressemble à un sourire. Son regard s'évocalise et l'ensemble de son comportement ont convergé vers un même objectif, mieux communiquer avec nous. Par son incroyable odorat et sa sensibilité à fleur de truffe, il peut renifler notre stress, reconnaître la joie ou la colère. Beaucoup de propriétaires vous diront qu'ils parlent vraiment avec leur chien, mais quelles sont leurs capacités linguistiques ? Cognition canine, un truc de ouf. Désolée pour ce titre. Et bonjour Sarah Janin.
Bonjour Natacha.
Vous êtes chercheure au labo éthologie de l'Université Paris-Nanterre, consultante au comportement canin et félin, et l'autrice également de l'ouvrage « Comportement et bien-être du chien, une approche interdisciplinaire » parue chez Educagri Édition en 2020. Nous sommes en ligne avec Florence Gonnet, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes chargée de recherche au Centre de recherche en psychologie et neurosciences UMR de Marseille. Merci à vous deux d'avoir accepté notre invitation en direct dans nos studios à France Culture. Et merci à vous également d'être là avec nous en direct ou à toute heure en podcast sur l'appli Radio France. Vous pouvez aussi nous suivre en nous rejoignant sur Blue Sky. Tous les jours, on poste pour vous des petits bonus, des liens, des ressources complémentaires. Et tout ça, c'est à retrouver sur notre compte @sciencesqfd. Alors comment étudie-t-on la cognition des chiens ? Que comprennent-ils lorsqu'on leur parle ? Et comment évaluer leur compréhension du langage ? Nous sommes ensemble une heure pour répondre à ces questions. Mais d'abord, avant tout, Sarah Janin, il faut dresser une carte de leur paysage sensoriel. Quel est le monde sensoriel du chien ?
Le monde sensoriel du chien, alors les mondes sensoriels, on appelle ça l'umwelt, c'est un terme scientifique pour désigner justement le monde sensoriel propre à chaque espèce, on pourrait même dire à chaque individu, mais on va s'arrêter à l'espèce. Et donc celui du chien est très différent d'une autre, c'est-à-dire que leurs capacités sensorielles sont alors bien supérieures à beaucoup d'égards aux nôtres, c'est-à-dire qu'ils ont des capacités olfactives, on en parle beaucoup, qui sont largement supérieures aux nôtres. Pour vous donner un ordre d'idée, un chien dispose de 200 millions de cellules olfactives, donc spécialisées à la détection des odeurs, quand nous, humains, en possédons 5 millions. Donc la différence est vraiment considérable. Ils ont aussi des caractéristiques visuelles qui sont différentes des nôtres. Ils perçoivent très bien des individus ou des choses en mouvement, alors que nous, on a vraiment du mal à distance à voir des choses qui bougent. On y est beaucoup moins sensible. En revanche, nous faisons attention aux détails. Eux, ils sont moins sensibles. Les couleurs, par exemple, les contrastes sont moins importants chez le chien. En fait, tout est fonction aussi de son environnement et d'être adapté au mieux à son environnement. Et donc, il entend aussi des fréquences que nous n'entendons pas. Les ultrasons, des fréquences très hautes. Voilà, c'est pour vous donner quelques idées de nos différences.
Pour continuer sur cette différence, Florence Gonnet, en effet, on n'a pas du tout le même système sensoriel que les chiens.
Oui, absolument. En fait, ce qui est important de relever déjà, c'est que le fait que le chien ne soit pas un bipède aux mains libres, ça a une conséquence majeure sur sa cognition. Donc, on en revient effectivement à la prédominance des capacités olfactives. Et par exemple, un de nos récents travaux a été de montrer que les chiens étaient capables de détecter les personnes positives au Covid-19, qu'elles soient symptomatiques et asymptomatiques. Donc, pour dire que il y a vraiment des capacités très fines malgré les différences en termes de symptômes chez les personnes. Et finalement, ensuite, pour schématiser, le système auditif est très performant chez les chiens. Voilà, puis la vision essentiellement, et le système vestibulaire également.
En effet, sur Louis, ils perçoivent des fréquences qui sont beaucoup plus élevées que nous. Hein. Ils perçoivent plus haut dans l'ultrason, il me semble.
Oui, c'est ça, des fréquences qu'on appelle les fréquences très hautes, qui s'appellent des ultrasons, des sons très aigus que nous ne percevons pas. Et c'est pourquoi certains dispositifs, d'ailleurs, mettent des ultrasons pour éloigner les chiens. Alors, est-ce que ça fonctionne ou non ? On ne sait pas si c'est désagréable finalement pour eux. Il y a eu peu d'études sur le fait qu'ils les perçoivent, mais est-ce que c'est désagréable ou agréable ? Bon.
On ne sait pas. Ce qu'on sait, en tout cas, c'est que les chiens aveugles arrivent à se diriger, s'orienter, grâce justement à cet odorat qu'on vient de décrire. Et puis pour la vue aussi, Sarah Janin, ils perçoivent moins bien les couleurs quand même.
Moins bien, en effet, déjà certaines couleurs, puisqu'ils n'ont pas le même nombre de cônes, c'est des cellules spécialisées dans la détection des couleurs que les humains. Donc par exemple, le rouge et le vert sont deux couleurs qu'ils ont du mal à percevoir. Ils voient plutôt un spectre de couleurs qui va du bleu-gris au jaune. Alors que, par exemple, les jouets pour chiens sont souvent rouges. C'est du marketing pour humains. Et donc, un jouet rouge sur une pelouse verte, c'est compliqué. Donc là, le chien va utiliser son odorat ou la forme de l'objet pour pouvoir le retrouver. Mais en effet, les couleurs sont pas aussi bien perçues que nous. Et au niveau toujours des couleurs, parce que ça va un peu ensemble, ils perçoivent mieux leur environnement dans la pénombre. Alors, pas dans l'obscurité totale, mais dans la pénombre. Ils ont moins besoin de lumière, de sources lumineuses pour se repérer, parce qu'ils ont un grand nombre de cellules en bâtonnets, cellules spécialisées dans la détection de la lumière, que nous. Et c'est pour ça qu'ils savent très bien se déplacer dans un environnement accidenté, dans la pénombre.
Ça, nous sommes trichromates et dichromates. Et ça, ce que vous décrivez, ce sont des caractéristiques de chasseurs du crépuscule.
C'est-à-dire que oui, d'un point de vue évolutif, ça s'explique très bien, puisque anciennement, c'était des chiens qui, alors leurs ancêtres, les loups, chassaient. Et donc, c'est certainement un reste, justement, de cette évolution et donc qui les caractérisait. Alors, maintenant, c'est moins utile pour le chien, puisque on lui sert à manger. Et puis, même les chiens errants font davantage les poubelles ou réclament à manger éventuellement, mais ils chassent beaucoup moins qu'ils le faisaient auparavant. Mais en effet, ce sont des vestiges de leurs ancêtres.
Alors voilà, le chien, c'est le premier animal à avoir été domestiqué. Ça remonte à environ 15 000 à 40 000 ans au Paléolithique supérieur, bien avant l'émergence de l'agriculture sédentaire. Alors comment avons-nous fabriqué, entre guillemets, le chien? Voici notre première archive.
On peut dire, Jean-Paul Kléber, à travers tout ce que vous avez écrit dans ce bestiaire fabuleux, que l'homme ne fait pas toujours très confiance aux animaux. Il y a une certaine peur quand même de l'animal qui ressurgit à travers les rêves des hommes.
Oui, en fait, l'animal a toujours été pour l'homme un ennemi ou une proie. C'est seulement très tard dans son histoire que l'homme a pu se familiariser avec des animaux, et encore dans une grande mesure sans les animaux, si vous voulez, qui se sont familiarisés avec l'homme, comme le chien, par exemple, qui s'est approché de l'homme, plus sans doute que l'homme n'a cherché le chien, en fait. On imagine assez bien que c'est le chien qui, rôdant autour des camps des hommes préhistoriques, et nettoyant le camp en le débarrassant des ossements et des entrailles, etc., s'est domestiqué en quelque sorte lui-même. En fait, c'est même pas un animal domestique, c'est un animal qui a vécu une espèce d'osmose avec l'homme.
C'est la thèse de Lorenz, d'ailleurs, ouais. Qui prétend, que je crois avec juste raison, qu'en fait le chien était auparavant soit un chacal, soit un loup, qui s'est approché de l'homme, effectivement, pour partager avec lui les produits de la chasse. Et puis après, évidemment, le chien a choisi l'homme pour devenir un animal familier.
Le bestiaire fabuleux de Jean-Paul Kléber dans le Trésor de France Inter en 1971. Florence Gonnet, comment le chien, Canis lupus familiaris, comment avons-nous fait des loups sauvages les meilleurs amis de l'humanité?
En fait, ça a été très progressif. On a pu retrouver des traces de l'approche en fait des chiens des villages. Et il y a eu en fait adoption petit à petit de ces chiens par les villageois. Alors les degrés d'adoption ont été très différents selon les endroits, ce qui met en évidence en fait des degrés de finalement capacité de socialisation à l'humain qui était différente. Parmi l'espèce, on va dire, canine, enfin en tout cas des loups. Et donc c'est ainsi que progressivement ont pu être domestiqués les chiens et les loups. Et donc on retrouve exactement la même variabilité au sein de l'espèce canine actuelle, de cette capacité à être adoptée et domestiquée par les humains, puisqu'on trouve vraiment des chiens qui restent à distance des lieux d'habitation des humains, et d'autres qui sont beaucoup plus proches, et jusqu'à trouver des chiens en liberté au sein même des villes. C'est le cas par exemple de la ville de Concepción au Chili, où on a une grande variabilité en fait de type de sociabilité des chiens vis-à-vis des humains, qui est certainement en fait un résidu de ce qu'on trouvait de la variabilité sociale chez le loup ancestral.
Dans cette histoire de cette domestication, Sarah Jana, il y a cet intérêt commun, ce qu'on appelle le commensalisme.
Oui, alors en fait c'est une notion importante, c'est-à-dire qu'au départ, lorsque le chien s'est rapproché de, enfin le loup à l'époque s'est rapproché des campements humains pendant cette grande période de sédentarisation, et ben il a finalement trouvé un intérêt à plutôt se nourrir des détritus, de ce qui restait, plutôt que d'aller chasser, c'était moins énergivore. Et puis du coup, les loups les moins farouches ont pu être tolérés par les humains, ne pas être chassés, il y a eu cette proximité qui s'est créée. Mais ensuite, il y a eu quand même la sélection volontaire s'est faite un peu plus tardivement. Ça a commencé dès l'Antiquité, ça s'est renforcé au Moyen-Âge, où on avait vraiment des chiens qui étaient sélectionnés pour de la chasse, éventuellement pour faire la guerre aussi, et pour garder, un peu plus tard pour conduire les troupeaux. Et puis, au cours de la Renaissance, on a eu aussi, déjà un peu à l'Antiquité, mais vraiment à la Renaissance, les petits chiens qui ont commencé à faire leur apparition pour simplement tenir compagnie. Mais cette sélection artificielle, cette sélection vraiment utilitaire pour des fonctions qui se sont diversifiées, elle a été vraiment débutée au 18e et au 19e siècle. Donc c'est très récent finalement.
Florence Gonnet, pour les chiens, il y a eu des changements morphologiques et comportementaux qui ont accompagné cette domestication. Quelles ont été justement ces conséquences morphologiques de la domestication?
Alors, il y a eu une expérimentation qui avait été faite en Russie avec des renards qui ont été en fait sélectionnés justement sur leur socialité aux personnes, et progressivement en fait cela a sélectionné des animaux, des renards qui ont présenté des formes de type enfantine, bébé, des têtes rondes, des yeux plutôt devant. Et voilà, donc il y a effectivement un lien entre les comportements sociaux et des changements morphologiques dans l'espèce des canidés, au sein des canidés.
C'est ce qu'on appelle également le syndrome de domestication, Sarah Jana.
Alors oui, peut-être qu'on l'appelle comme ça, je découvre à vrai dire ce terme, mais en tout cas cette idée que si l'on sélectionne les chiens sur leur comportement, on va changer aussi leur apparence physique et vice-versa, puisque les deux sont liés. On a des gènes qui vont aussi bien coder pour l'apparence physique que pour le comportement. Et donc, l'un ne va pas sans l'autre.
Voilà, ce syndrome de la domestication, c'est par exemple la réduction de la taille des dents, de la mâchoire, des changements de forme d'oreille, de queue, des changements de niveau d'hormones, et puis voilà cette persistance de comportements juvéniles à l'âge adulte, par exemple. Mais alors, comment le chien se distingue-t-il cognitivement de son cousin, le loup, Sarah Jana?
Alors cognitivement, on a surtout une grande différence sur, déjà dans son rapport à l'humain, sur la docilité, ses comportements d'approche et cette recherche d'interaction qu'il y a chez le chien, parce qu'il a été renforcé au cours de la sélection artificielle. Donc c'est pour ça qu'il y a des grandes différences. Mais c'est vrai que même chez des loups qui ont été élevés par l'humain, dans des parcs zoologiques, on voit encore ces différences où le loup ne recherche pas, par exemple, l'aide de l'humain pour résoudre des problèmes, alors que le chien se tourne immédiatement dans les premières minutes vers l'humain quand il n'arrive pas à résoudre une tâche.
Florence Gonnet, sur ces différences entre Canis lupus lupus et Canis lupus familiaris.
Oui, il y a effectivement des grandes différences au plan des comportements sociaux qui demeurent, même si certains peuvent être modifiés effectivement par l'enculturation à l'humain, mais vraiment dans une certaine limite, vraiment loin de tous les comportements sociaux. Donc il y a effectivement une part qui est modulable par l'expérience à l'humain et une autre part qui ne l'est. Et l'essentiel n'est pas modulable chez le loup par l'expérience à l'humain. Ensuite, la grande autre différence porte en fait sur les compétences, on va dire, non sociales. Déjà spatiales, le loup conserve des grandes capacités de navigation. Il peut naviguer entre 1000 et 5000 kilomètres. Il a une aire de navigation très large, je veux dire. Et alors que le chien ne l'a plus. Et donc les compétences de navigation chez le chien ont vraiment diminué, même si elles demeurent, et on le voit notamment chez le chien guide, qui est la Rolls-Royce des chiens de personnes handicapées, de chiens d'assistance, puisque ce sont des chiens qui sont en mesure à la fois de naviguer dans des environnements qu'ils ne connaissent pas à l'aide du guidage verbal, également d'incorporer finalement dans leur schéma corporel le corps de leur propriétaire, de leur maître non-voyant. Donc ça en fait effectivement des animaux qui se différencient du loup. Donc là, on a vraiment en fait une combinaison très intéressante chez le chien, à la fois de compétences sociales et de compétences spatiales.
Là justement, pour domestiquer, il faut communiquer. Mais comment? Quelles sont les compétences comportementales et sociales des chiens? On y arrive.
France Culture, la science CQFD, Natacha Trio.
On en direct sur France Culture, c'est impossible de parler sur une virgule comme celle-ci. En direct sur France Culture, une émission cynophile sur les facultés cognitives de ceux que l'on nomme affectueusement les toutous. On en parle avec Sarah Janin et Florence Gonnet. On vient de parler de l'histoire de la domestication du chien, ce qu'il distingue cognitivement de son cousin le loup. La cognition sociale vis-à-vis de l'humain, on a fabriqué justement Canis Familiaris. Dans son excellent ouvrage « Chien » au pluriel, Marc Alizard écrit « Moitié loup, moitié homme, il est moitié sauvage, moitié civilisé ». Qu'en dites-vous, Sarah Janin ?
Je pense que c'est vraiment cette idée que... Quand on voit, en fait, sur Terre, par exemple, la grande majorité des chiens sur Terre sont des chiens qui vivent libres et errants. Et leurs compétences, leur communication, leur comportement sont finalement assez différents de nos animaux compagnons qui vivent dans nos foyers, qui, eux, ont subi vraiment un processus de sélection artificielle qui a changé leur mode de communication, qui a changé leur tolérance vis-à-vis de l'humain et des autres espèces. Et donc, je pense que c'est en ça qu'ils se distinguent.
Florence Gonnet, par rapport justement aux capacités comportementales et sociales des chiens, on a fabriqué les chiens, cette capacité à lire des émotions des humains. En fait, on dirait que ce sont des animaux qui sont faits, calibrés pour décrypter le langage non-verbal.
Oui, c'est vraiment quelque chose qui se distingue chez le chien, c'est sa capacité effectivement à détecter des signaux de la part des personnes. C'est pour lui, en fait, le chien est en dépendance de l'humain, donc il a appris à décrypter les signaux qui émanent des humains. Alors donc ça peut être effectivement les émotions. Alors c'est pas tant les émotions, ce sont les comportements manifestés par les personnes qui sont à la surface justement des émotions qui elles sont internes, n'est-ce pas? Donc effectivement, il y a eu de très nombreuses expériences qui ont montré que les chiens étaient capables de détecter des émotions sur des comportements liés à des émotions sur des photos, et en particulier ils distinguent très très bien les émotions négatives, donc une tête qui fait la grimace ou qui a une expression négative, et puis finalement des comportements qui manifestent un état neutre ou positif sont moins distinguables par les chiens, parce que pour la bonne raison que finalement le chien a beaucoup intérêt à savoir détecter les comportements négatifs, puisque ça pourrait l'affecter lui-même. Il pourrait y avoir des personnes qui auraient des comportements négatifs à son égard. Et donc non seulement les comportements qui sont, enfin les expressions sur les visages, mais aussi les comportements des personnes en elles-mêmes, les postures, etc. Et donc celles-ci sont très vite apprises et les chiens sont vraiment capables de les distinguer et de se positionner par rapport à ses comportements.
En effet, ils peuvent reconnaître un visage en colère ou joyeux, même si on ne montre qu'une seule partie, soit le haut, soit le bas du visage. Sarah Janin, ils sont même aussi attentifs aux associations comme rire et visage joyeux ou colère plus cri.
Oui, exactement. Ils sont capables vraiment d'associer des canaux de communication distincts. Et c'est en ce sens qu'on peut dire qu'ils reconnaissent une émotion. C'est-à-dire qu'ils peuvent associer un visage qui sourit avec une vocalisation donc positive, quelqu'un qui rigole par exemple, ou un visage en colère avec voilà, des vocalisations d'une personne qui est contrariée. Et donc en ce sens, ils ne sont pas seulement capables de discriminer, de faire la différence entre des émotions, ils peuvent les reconnaître. C'est vraiment ce que cette expérience a pu montrer.
Là, on parle de la vue et de l'ouïe, mais on a aussi des études qui montrent, une étude dans PLOS ONE en 2022, qu'ils peuvent détecter les odeurs associées à des états psychologiques comme le stress, la peur également. Sarah Janin.
Et oui, c'est vraiment intéressant parce que non seulement ils sont capables, mais cela va induire un comportement différent de leur part. C'est-à-dire que si on imbibe, par exemple, des cotons d'une odeur d'une personne qui a eu une émotion de stress, voilà, une peur, ou une personne voilà, qui est joyeuse, lambda, et on demande à un chien de s'approcher plus ou moins rapidement d'une récompense alimentaire, il va mettre plus de temps s'il a senti justement ce coton imbibé de peur avant de s'approcher que lorsqu'il a senti une émotion de joie ou une émotion neutre. En fait, on appelle ça le test du biais cognitif. Et pour faire très simple, on apprend au chien en amont à droite, tu es récompensé par un bol de nourriture. À gauche, il n'y a rien. Donc le chien apprend très vite à aller toujours du côté où il est récompensé. Et puis lors du test, on met le bol parfaitement au milieu. Et on regarde si le fait d'avoir senti une émotion, entre guillemets, négative avant, affecte le temps qu'il va mettre à s'approcher. Et c'est là qu'on voit qu'en effet, quand il a senti une odeur de stress, il met plus de temps, il voit plutôt le verre à moitié vide que lorsqu'il a senti une émotion positive.
Florence Gonnet, comment ça s'explique, ça, cette capacité à flairer littéralement l'émotivité humaine?
Alors, le chien, en fait, est capable de distinguer des odeurs qui sont associées à différentes situations internes. Alors, ce n'est pas la détection de l'émotion, mais c'est la manifestation de l'émotion par les odeurs. L'émotion n'est pas perçue en elle-même. C'est l'odeur qui est émise par la personne qui est finalement apprise petit à petit. Et donc, stress égale telle odeur, état calme égale telle odeur. Et c'est ainsi qu'en fait, le chien est capable de distinguer finalement les états émotionnels non visibles de la personne.
Par rapport justement toujours à l'ouïe, la vue et l'ouïe, Sarah Janin, on sait aussi qu'ils reconnaissent nos gestes. Le pointage, par exemple, il me semble que c'est des premières choses qu'on a commencé à étudier chez les chiens.
Tout à fait. Est-ce que finalement le chien est capable de suivre un geste de pointage de la part de l'humain pour savoir lequel des deux contenants, à droite ou à gauche, contient une récompense? Et en fait, ça, dès les premiers essais, ils font confiance au geste de l'humain, ils reconnaissent ce geste et ils lui font confiance et ils se dirigent vers le bol qu'a désigné l'humain. Et ça, mieux encore que les primates, qui pourtant sont très proches de nous génétiquement. Et c'est vraiment un apprentissage qu'ils ont fait auprès de l'humain.
Ça, on a des technologies pour étudier tout ça, par exemple, avec de l'eyes tracking.
Oui, l'eye tracking, c'est un petit capteur qui se met dans l'écran et qui permet de suivre le regard du chien lorsqu'on lui propose par exemple un visage d'humain ou un visage d'un autre chien, d'un congénère, et on peut regarder quelle zone il parcourt grâce à ce capteur. Et ça nous donne vraiment des données objectives sur quelle est la première zone qu'il va observer et combien de temps il va l'observer pour savoir ce qui est pertinent pour lui.
Et ça aussi, on passe aussi par des IRM, on leur fait écouter des voix humaines ou on leur montre des images d'humains, par exemple, et on observe comment leur cerveau s'allume, entre guillemets, comment ça réagit.
Oui, alors ça, c'est vraiment super d'avoir maintenant cette nouvelle technologie qui nous permet, alors avec un entraînement extrêmement intense, il y a peu de chiens qui ont réussi quand même à être entraînés à rester immobiles, éveillé donc dans un IRM, vous savez à quel point ça fait du bruit et que c'est impressionnant. Mais lorsqu'on y parvient, on peut analyser ce qui se passe dans leur cerveau lorsqu'on leur diffuse des voix humaines, lorsqu'on leur montre des photos et voilà, est-ce qu'ils distinguent des objets, des visages humains, des visages de congénères avec différentes expressions émotionnelles, etc.
Voilà, on parle des chiens qui reçoivent des informations des humains. Florence Gonnet, à l'inverse, ils savent aussi utiliser la gestuelle humaine, mais surtout ils savent produire une communication non verbale à notre adresse.
Oui, complètement. Le chien est en mesure de faire des comportements, de produire des comportements de communication référentielle et de nous indiquer en fait l'objet de son intérêt tel objet que je désire est à tel endroit et il souhaite le en disposer. Donc, à ce moment-là, il va produire des comportements de communication référentielle, donc qui se en fait décompose en plusieurs étapes. La première étape, c'est de regarder de manière longue son propriétaire ou la personne à qui il s'adresse, et puis de commencer à faire des petits regards ou alternances de regards vers l'objet de son intérêt, donc ce qu'on appelle des alternances de regards. Et si la personne ne se mobilise pas pour lui faire parvenir cet objet désiré, alors le chien va commencer à réaliser d'autres comportements pour manifester son intérêt. Donc il va continuer les comportements d'insistance vis-à-vis de la personne et augmenter ses comportements vis-à-vis de son objet d'intérêt, comme rajouter, alors qu'il le regarde, la voix. Tout d'abord, des couinements, beaucoup de couinements à l'adresse de la personne et de l'objet. Et ça peut aller jusqu'à des vocalisations puissantes vers l'objet en question et jusqu'à se positionner à proximité de cet objet pour signifier son intérêt. Et ça, au niveau méthodologique, ça a été mis en évidence par l'analyse des comportements sur des vidéos. Dans ces cas-là, en fait, on enregistre les comportements des chiens et toute la scène, et on reporte les comportements que l'animal effectue au cours du temps. On les compte et ça nous permet en fait de mettre en évidence justement la séquence et le nombre de comportements de tel ou tel comportement. Donc, on parle de comportement multimodal. Qui va pouvoir donc s'exprimer différemment selon les conditions expérimentales, comme par exemple, le maître est présent, alors les comportements vont être vraiment très très nombreux, et surtout s'il ne bouge pas, et surtout pendant longtemps. En l'absence du propriétaire, en fait, le chien va regarder l'objet, mais finalement, comme il n'y a personne à qui s'adresser, il va vite tarir son comportement, en fait, parce qu'il n'y a personne à qui communiquer, donc il va un petit peu couiner, essayer de l'atteindre par lui-même, et s'il n'y a personne à qui communiquer, il va arrêter de communiquer. Et c'est pour ça qu'on peut parler de communication, parce que ces comportements ont lieu en la présence d'une personne.
Oui, mais alors, cette communication-là, est-ce que c'est de l'inné, de l'acquis? C'est la fameuse question, Florence Gonnet. Comment les chiens apprennent-ils justement à communiquer avec nous très directement, avec leur maître?
Alors, c'est de l'acquis. Mais il y a une prédisposition du chien à avoir ces comportements, puisqu'on n'en retrouve absolument pas autant chez les loups et même en culturé, en fait. C'est ce que disait Sarah Janin tout à l'heure. Et donc, ça se développe en fait au cours du temps. Et pour la bonne raison aussi que, en fait, ces comportements vont être renforcés positivement par la famille dans laquelle se trouve le chien. Et finalement, en fait, le chien, in fine, développe les mêmes comportements que le très jeune enfant non-verbal. Donc, il y a beaucoup de similarités, en fait, entre les comportements de communication référentielle du très jeune enfant, moins de 2 ans, jusqu'à 2 ans non-verbal, donc, et le chien.
Un grand nombre de propriétaires de toutous sont persuadés que leur chien saisit le sens de leurs paroles. Alors, peut-on vraiment parler avec son chien? Les chiens nous comprennent-ils quand on leur parle? Et quelles sont surtout leurs capacités langagières? On y arrive.
Vous avez pas vu Mirza? La 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 la. Vous avez pas vu Mirza? La 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 la. J'avais pas vu Mirza. Oh la 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 la. Où est donc passé ce chien? Je le cherche partout. Où est donc passé ce chien? Il va me rendre fou. Où est donc passé ce chien? Ça y est, je le vois, veux-tu venir ici? Je ne le répéterai pas. Veux-tu venir ici? Sale bête, va. Veux-tu venir ici?
Merza de Nino Ferré en direct sur France Culture, car on s'intéresse aux capacités cognitives des chiens. Avec nos deux invités du jour, Sarah Jamin, chercheure au labo d'éthologie de l'Université Paris-Nanterre, et Florence Gonnet, chargée de recherche au Centre de recherche en psychologie et neurosciences UMR de Marseille. On vient de voir qu'après des milliers d'années de domestication, ils sont devenus des experts pour lire nos émotions. Ils peuvent lire nos mimiques et puis nous comprendre d'une certaine façon. En 2021, Internet a été inondé de vidéos qui montrent la chienne Bunny en train de presser des boutons d'un clavier qui diffuse des mots préenregistrés comme « dehors »,« babal », »,« jouer ». Bunny semble, et je mets des grosses guillemets, Bunny semble capable de faire des phrases avec des boutons sonores. Elle utilise plus de 50 mots. Sarah Jamin, que pensez-vous de ce type d'expérience ? Faut rester prudent et sceptique ?
Alors oui, sans aucun doute. Sceptique dans les conclusions qui ont été faites à partir de ces vidéos-là. C'est-à-dire que Bunny puis d'autres sont capables de faire une association entre j'appuie sur ce bouton, ça fait telle sonorité et j'obtiens telle chose. Généralement, ce sont des demandes alors de sortie, d'interaction, de choses d'ailleurs globalement plutôt positives. Il y a peu de demandes négatives. Et en fait, ça, le chien est tout à fait capable, par, on appelle ça du conditionnement, d'associer un type, un mot qu'il va reconnaître, qu'il va apprendre, avec la conséquence. Mais c'est vraiment plutôt de la communication qu'on va appeler instrumentale, c'est-à-dire qu'on demande quelque chose, on n'est pas dans une communication déclarative où on parle de nos états internes, de ce qu'on ressent, pas en train de dire je suis préoccupé, etc. Donc ce n'est pas vraiment une compréhension de la grammaire ou des mots comme des unités abstraites, c'est vraiment un lien entre tel mot que je reconnais à force, puisqu'il est toujours suivi de telles conséquences.
Florence Gonnet, justement, vous aussi sur cette expérience de chien qui tâte de la patte des claviers.
Oui, cela s'apparente, je rejoins complètement ce que disait Sarah, cela s'apparente vraiment à un très bas niveau de langage chez l'enfant. Alors ce n'est pas du langage, c'est vraiment de l'apprentissage associatif entre une action et un résultat d'action. Et à ce stade, voilà, on ne peut pas dire autre chose que cela. Et ça reste de la communication référentielle. Il y a substitution en fait à, on va dire, des comportements que le chien pourrait faire à un autre système par un autre système de communication. Il ne produit plus lui-même des comportements pour indiquer l'objet de son intérêt, mais il utilise finalement un autre moyen de communication non verbale.
Vous évoquez l'apprentissage associatif. Sarah Jamin, combien de mots sont-ils capables de reconnaître ?
Alors, il y a eu quelques expériences qui ont été publiées dans des revues scientifiques qui montraient, alors c'était systématiquement des border collies pour le coup qui avaient été étudiés et qui étaient capables de retenir plus de 1000 mots, 1022 mots si mes souvenirs sont bons, et c'est plutôt le référent humain qui s'est lassé d'enseigner ces mots à sa chienne Chaser en l'occurrence. Il y en a eu d'autres aussi. Et donc ils sont capables de connaître un très très grand nombre de mots et d'associer aussi ces mots à des actions particulière, donc va chercher, va poser ta patte sur tel nounours qui s'appelle comme ça, ils sont capables de le faire. Voilà, donc oui, ils apprennent des mots et l'intonation seule ne suffit pas, ils sont aussi capables de retenir vraiment le sens d'un mot.
Et alors, comme vous dites, pour les chiens qui sont dressés pour les personnes en situation d'handicap moteur, les chiens guides, ils peuvent associer des mots à des actions à peu près de 50. Et comme vous dites, il n'y a pas que l'intonation qui compte. Hein. On a longtemps cru que l'intonation toute seule marchait, mais en fait, on sait qu'ils prennent en compte la sémantique. La bonne intonation pour le mauvais mot ne marche pas. Si au lieu de dire, par exemple, « assis », vous dites « issa », ça ne fonctionne pas. Florence Gonnet, ça veut dire que les chiens sont réceptifs finalement vraiment aux mots qu'ils entendent.
Oui, complètement. Déjà, il faut savoir que les chiens pour personnes handicapées, que ce soit par exemple pour le handicap moteur ou pour les chiens guides, donc apprennent une cinquantaine, soixantaine d'instructions. C'est déjà beaucoup parce que d'instructions telles devant, stop, à droite et ce genre trouve la boîte aux lettres. Voilà, donc on voit bien déjà que les instructions sont simples, n'est-ce pas ? Les instructions verbales sont simples. Et donc ça, le chien est en mesure, donc, et il apprend au cours de sa formation, qui peut durer de un an à un an et quelques mois, à associer à des mots des actions qu'il doit faire, jusqu'à pouvoir donc effectivement guider une personne, par exemple non-voyante, dans un environnement qu'elle ne connaît pas, juste avec des instructions de guidage. Donc ça, c'est la première chose à savoir. Et la seconde, c'est qu'effectivement, l'ordre des mots, des syllabes est important, puisque effectivement, si on perturbe, ben ça change tout. Donc il y a vraiment une association très précise qui est faite dans le cerveau du chien entre un mot et une action. Mmh.
Les imageries aussi nous montrent comment les mots sont codés dans leur cerveau. Florence Gonnet, que voit-on d'ailleurs plus précisément à l'IRM ou sous EEG, sous électroencéphalogramme?
On commence à montrer qu'il y a une certaine analogie entre le traitement de la parole et chez le chien et chez l'humain, mais il y a aussi beaucoup de différences. Et Annise Giraud pourra évoquer cela.
Et alors, Sarah Janin, hein, sur justement ces images cérébrales et ces études en neurosciences qui étudient justement le cerveau des chiens, quelles sont justement les dernières surprises en la matière?
Alors, elle remonte un peu à quelques années, hein, maintenant, parce qu'à chaque fois je dis que c'est nouveau, puis je me dis c'est 2016, je me dis oh là là, c'est plus du tout nouveau. mais on se rend compte qu'il y a alors une latéralisation partielle, pas entière, où donc l'hémisphère droit va plutôt traiter l'intonation et l'hémisphère gauche du chien plutôt le côté sémantique. Et ce qui était surprenant aussi,
gauche, les mots familiers,
ouais. Voilà, exactement, le sens des mots, et en particulier des mots familiers, en effet. Et les chercheurs ont aussi montré que lorsqu'on prononce des mots familiers avec une intonation positive amicale, cela active ce qu'on appelle le circuit de la récompense dans le cerveau du chien, et ce qui est certainement captive leur attention, les rend beaucoup plus attentifs à ce qu'on dit, et peut-être même les motive à répondre à la demande. Et c'est pour ça que c'est de plus en plus utilisé en éducation, d'utiliser une voix amicale pour encourager, pour motiver le chien à.
Mais alors on sait aussi qu'ailleurs que notre rythme, notre façon de parler au chien n'est pas le même d'ailleurs. On s'adresse pas à un chien de la même façon qu'on s'adresse à un humain.
Non, en effet. Alors, on s'est rendu compte, alors, pas tout le monde, mais une grande majorité de personnes, va moduler sa manière de parler en utilisant plutôt une intonation plus aiguë et modulée lorsqu'on s'adresse à son chien, ce qu'on appelle, en fait, ce qu'on retrouve dans le langage adressé aux jeunes enfants, aux nourrissons, ce qu'on appelle le baby talk, mais qu'on va appeler le pet directed speech, donc le discours adressé aux animaux compagnons. Et donc cette manière d'un peu de parler gaga à nos animaux compagnons, mais c'est utile, ce n'est pas seulement une transmission d'affection, c'est utile. J'ai tout mon doctorat là-dessus, alors j'espère bien.
Alors sur la question du langage parlé, les chiens comprennent les commandes qu'on leur donne, mais ça va plus loin que ça. Ils peuvent intégrer des concepts. On y vient.
What? What do you want?
France Culture.
What are you upset about?
La science CQFD. Natacha Triou.
You know, you have a real gift. A real gift. Every time I sit down, all the time, there you are. There you are. Right there beside me. Making sure I don't forget about you.
Je n'aurais aucun plaisir à vivre dans un monde où les chiens n'existeraient pas, écrivait Schopenhauer. Et oui, nous sommes toujours en direct sur France Culture, nous parlons de chiens avec Sarah Janin et Florence Gonnet. Florence Gonnet, comment les chiens perçoivent-ils la parole alors qu'ils ne peuvent pas la produire ?
On commence à avoir des éléments donc sur cette question-là. On montre qu'il y a en fait que l'humain parle, l'humain en fait a un rythme de son cerveau en fait d'une certaine fréquence, et finalement le chien en fait, alors l'humain a appris à adapter sa façon de parler, parce que ça va être bien capté à une bonne fréquence que lui-même peut avoir. Et c'est en fait par synchronisation comportementale que synchronisation cérébrale, pardon, ou par résonance motrice que petit à petit, en fait, le chien, en fait, entend, comprend et intègre, en fait, ce qui est dit. Donc, c'est pour ça qu'il y a une combinaison, effectivement, de prosodie et des mots qui sont produits. Et donc, il y a une résonance motrice, dans une certaine mesure, entre le cerveau de la personne et le cerveau du chien.
Eh bien, on va continuer en tout cas à remuer la queue. On poursuit avec le reportage du jour. Des expériences en éthologie sont menées à l'école vétérinaire de Maisons-Alfort afin d'évaluer les capacités cognitives de nos animaux de compagnie et en particulier le dénombrement. On continue d'en parler avec vous, Céline Lausanne. Bonjour.
Bonjour, Natacha.
Vous avez pu assister à une expérience auprès d'une jeune chienne en laboratoire.
Une expérience ou une performance plutôt aux côtés de Rikit, jeune croisé berger aux compétences dites hors normes, c'est-à-dire équivalent HPI. Alors pour mettre en évidence des facultés cognitives telles que le dénombrement chez les chiens, il faut arriver à tester leur aptitude à faire un choix entre deux quantités. Et c'est le principe de l'expérience mise en place par la professeure Caroline Gilbert. En plaçant deux gamelles, la chienne doit cibler la plus garnie, preuve d'une bonne estimation des quantités.
Donc le test du dénombrement, c'est en fait, on va une croquette. Et après, bah, le chien, il va là où il y a trois croquettes. Et puis après, on avait fait 3 et 5, je crois. Il y avait 1 et 3 et 2 et 5. Ouais, on pourra faire à 2 et 4. Je m'appelle Caroline Gilbert. Moi, je suis professeure en éthologie à l'école vétérinaire d'Alfort. Et je suis rattachée en recherche au laboratoire Mécadev, CNRS Muséum.
Moi, je suis Marie-Agnès et je suis la propriétaire de Rikit et je suis étudiante à l'école vétérinaire d'Alfort.
Donc Rikit, c'est votre chaîne qui va participer à l'expérience?
Oui.
Est-ce que vous pourriez décrire l'expérience à laquelle on va assister ?
Oui, alors donc en fait, on a fait une étude avec une autre étudiante, donc Alexane Moulière, qui vient de soutenir sa thèse vétérinaire. Et l'idée, c'était de caractériser l'intelligence peut-être hors norme, hein, un peu ce qu'on appelle HPI, avec toute sa complexité derrière hein, chez l'humain. Et donc, on a mis en place différents tests cognitifs, donc pour tester un petit peu leur capacité de réaction et leur capacité d'action. Donc on a fait, alors on a récupéré bien sûr ces tests-là de la littérature, on s'est inspiré bien sûr de la littérature scientifique. Donc il y avait un premier test, un test du détour, où en fait une friandise est placée à l'intérieur de deux barrières, on va dire, et donc le chien doit faire le détour pour accéder à la friandise. On avait le test du dénombrement. Donc on a deux gamelles où on a une croquette, trois croquettes et on fait choisir au chien la gamelle. Et donc normalement s'il arrive à compter, entre guillemets, hein, estimer une quantité de croquettes, il va se diriger vers la gamelle la plus remplie. On avait un test des gobelets où en fait on cachait une croquette dans trois gobelets. On mettait un carton devant le chien pour qu'il oublie un petit peu, voilà. Et donc on testait, ça s'appelle la mémoire de travail. Et ensuite on le relevait le carton et puis on observait là où le chien allait choisir. Donc est-ce qu'il se souvenait où était la croquette? Et donc on a testé grâce à Alexane et une autre étudiante et également en master 1 Océane Le Carré, une trentaine de chiens des étudiants. Et donc on va avoir Rikit là aujourd'hui qui est la chienne qui a le mieux performé sur les quatre tests. Donc voilà, qui montrerait potentiellement que certains individus chiens sont plus performants que les autres. Alors, on fait le test de dénombrement avec Rikit? Donc là, on va refaire le test de dénombrement avec Rikit. Donc là, j'ai placé deux gamelles à peu près à un mètre de distance. Et puis, donc Rikit est en face à 2 mètres. Et donc, elle est tenue par Marie-Agnès, sa propriétaire. Donc là, ce qu'on va faire, c'est que moi, je vais déposer des croquettes. Donc une croquette à droite et trois croquettes à gauche. Et ensuite, Marie-Agnès va dire à Rikit d'aller. Et donc, on va voir si elle va soit à une croquette, soit à trois croquettes. Ne nous déçois pas, Rikit. Alors, hop, on lance le test. Donc voilà, donc je mets une à droite et puis trois à gauche. Hop, si tu peux la...
Ah, déjà...
Et voilà, donc elle est allée directement...
Elle regarde déjà la gamelle.
Voilà, donc là, elle a mangé d'abord les trois croquettes et puis elle finit sur l'autre croquette. On peut recommencer.
En moins de 2 secondes.
Ah, ouais. On peut recommencer, sinon je vais inverser. Je vais mettre deux d'un côté et trois de l'autre.
Oui, parce que expérimentalement, c'est bien de répéter
les mesures toujours,
encore et encore.
Toujours répéter. Après, la contrainte qu'on a avec des animaux de propriétaires, c'est que on peut pas les fatiguer et puis les monopoliser trop longtemps. Donc quand on a des animaux d'expérimentation ou des dédiés aux expérimentations, c'est beaucoup plus simple, on peut beaucoup plus répéter.
Ils sont formés et habitués aux
expérimentations. Voilà. Hein, donc dans des stations d'éthologie, voilà, on a des animaux qui sont là et qui sont testés sur des tablettes, qui sont retestés, etc. Donc la Rekit, elle attend et elle est hyper impatiente. Donc là, je vais mettre deux à gauche et trois à droite.
Plus difficile.
Voilà, plus difficile. Hop.
Allez.
Et donc, elle se dirige vers les trois croquettes et vers les deux croquettes et c'est fini.
Bravo Rekit. Est-ce que le son peut être signifiant pour eux ?
Bah là, justement, l'idée, c'était vraiment de les faire tomber pour qu'il y ait du son, parce qu'on aurait pu faire autrement, hein. Démontrer trois dans une main et trois dans l'autre. Ça se fait aussi sur d'autres espèces. Bon, là, on s'est dit qu'avec le son qui tombait, c'était OK pour eux, parce que c'est aussi un son qu'ils ont l'habitude d'entendre à la maison, quoi.
Quand on
met
la gamelle.
Ouais, voilà, quand on met les croquettes dans la gamelle. Mais là, voilà, c'est encore une question légitime. Est-ce qu'on fait par la vue, par le son, voilà. Et donc, on aurait peut-être pu faire autrement et ça aurait peut-être donné d'autres résultats. D'où le, voilà, tout le côté méthodologie et potentiel biais lié aux expérimentations, en fait.
Et la place de l'observateur, est-ce qu'elle influe, voire perturbe?
Alors l'observateur, à chaque fois, l'idée c'est d'être le plus neutre possible, le moins interagir avec l'animal et d'être le plus standardisé, le plus répétable possible. Mais c'est vrai que c'est pas si évident que ça non plus. Donc on essaye d'être le plus neutre. Après, ça dépend vraiment des protocoles. Hein, mais là, dans le cadre de ce qui nous intéressait, voilà, les observateurs n'interagissaient pas avec le chien.
Je crois qu'on pourrait pousser cette expérience du dénombrement sur des plus grandes quantités ou des écarts plus faibles.
Ben oui, on pourrait. Après, là, c'est vrai que là, c'est le bruit. Mais ça pourrait être fait aussi avec des friandises de qualité différente. Hein, soit là, c'est la quantité, soit ça pourrait être voilà, en termes de qualité. On pourrait se dire que ouais, on met une demi-croquette d'écart. Voilà. Mais là, on a déjà fait le test avec deux, puis une croquette. Mais on pourrait, oui, bien sûr.
Donc là, le test est réussi haut la main.
Le test est réussi haut la main.
Merci, Céline Lozen. Nos reportages loin du studio pour se frotter à la science telle qu'elle se fabrique au quotidien. C'est notre collection La Science au Labo. Et c'est à retrouver sur votre application préférée, l'appli Radio France, bien sûr. Florence Gonnet, une réaction à l'écoute de ce reportage?
Oui, c'est très intéressant de voir qu'on va vers l'étude des cas particuliers de chiens, hein, qui met en évidence en fait les extrêmes. Parce que les sciences comportementales ont tendance à faire des études de groupe. Or, il y a des variabilités. Donc ça, c'est très intéressant de s'intéresser à des chiens HPI. D'autant plus que ça montre la variabilité des compétences. Finalement, on avance de manière générale, la science avance en ce moment vers effectivement la mise en évidence de la variabilité. Ce travail, en fait, donc on revient là en fait à la cognition non sociale, n'est-ce pas, avec notamment la tâche de détour. Alors la tâche de détour, donc finalement c'est une tâche d'orientation spatiale et c'est une tâche pour une aptitude en fait de base chez les êtres vivants, chez les animaux humains et non humains, comme le détour. Faire un détour, ben, quand on a un obstacle pour retrouver finalement un but. Donc ça revient à ces tâches de navigation dont le loup finalement est très capable. La tâche de détour, comme tâche de navigation, est une très bonne tâche pour tester les chiens. Donc ils ont l'habitude de faire un parcours et puis on bloque. Ils doivent effectuer un détour et finalement le temps qu'ils mettent est vraiment informatif sur leurs compétences de navigation. Une autre tâche qui est donc proposée, c'est celle de la mémoire de travail. Alors la mémoire de travail, alors il y a d'abord plusieurs types de mémoire, hein, la mémoire de travail, la mémoire sémantique, épisodique, procédurale. Et d'autres encore. Et donc la mémoire de travail, c'est une forme de mémoire à court terme qui permet de stocker et de manipuler des informations de manière très très courte, quelques secondes. Et c'est ce qui permet, cette mémoire, de stocker des informations en vue de les utiliser pour accomplir une tâche sur le moment. Donc effectivement, c'est une tâche qui est très très pertinente, voilà, pour s'intéresser aux compétences non sociales. Puis nous avons donc l'équipe de Maison Alfort travaille sur le dénombrement. Et effectivement, le dénombrement, c'est quelque chose qui a déjà été bien étudié en fait chez des groupes de chiens. Et là, mettre en évidence que ce chien a des compétences hors normes, voilà, c'est très pertinent de tester ce chien sur ce sujet-là.
Oui, et puis comme on l'entendait dans ce reportage, ce test sur le dénombrement, pendant longtemps on pensait que c'était une aptitude dont seul l'humain était doté. Il y a aussi quelque chose qu'on entend beaucoup, ça gêne, hein, autour de nous, de comparer les chiens à l'intelligence des jeunes enfants.
Oui, alors déjà, essayer d'évaluer l'intelligence du chien à partir de critères humains, moi, ça m'embête un petit peu. Souvent, d'ailleurs, les protocoles utilisés ont été faits penser pour des enfants, pour des adultes humains, et ils ne sont pas toujours appropriés à l'espèce qu'on étudie. Et puis, ne pas oublier que si une espèce ne réussit pas une tâche, n'a pas cette compétence qu'on attendait, ça ne veut pas dire qu'elle est moins intelligente, c'est peut-être qu'elle n'est pas utile, cette compétence, dans leur environnement, dans leur interaction avec leurs congénères. Pas oublier ça. Donc, l'intelligence a de grands paramètres, c'est très complexe, et je pense pas qu'on puisse évaluer l'intelligence d'un individu sur une tâche en particulier, et encore moins le qualifier de haut potentiel sur une tâche en particulier.
Alors ça, par exemple, ça peut dire qu'on peut ouvrir le débat sur pourquoi il existe des chiens guides, des chiens pompiers et pas des chats d'aveugles, ni des chats des chats de chasse, enfin si, de souris, mais bon.
C'est vrai que cette combinaison entre la domestication initiale du chien et puis ensuite cette sélection artificielle qu'il n'y a pas eu chez le chat ou bien plus tardivement et en tout cas pas sur des fonctions utilitaires explique qu'on ne puisse pas attendre la même chose d'un chat que d'un chien à l'heure actuelle. Ça pourra encore évoluer et à la base le chien est une espèce sociale, ce n'est pas le cas du chat, mais ça se transforme également actuellement chez nos chats compagnons. Mais voilà.
Et là, on arrive vers la fin de cette émission. Là, c'était une curiosité où je pense que tous les propriétaires de chiens se sont interrogés sur ces moments qu'on appelle les zoomies. Les zoomies, c'est ces périodes d'activité frénétique, aléatoire, où le chien se met à courir, à faire des cercles de tous bords, de tous les côtés. Ça, hein, il se passe quoi à ce moment-là chez le chien?
Alors, très souvent, c'est quand même des chiens qui n'ont pas suffisamment de temps de dépenses à l'extérieur, qui sont restés longtemps tout seuls à la maison. Et puis, ça arrive au moment où, par exemple, tout le monde rentre à la maison. Et là, il y a une montée en excitation, ils vont se mettre à parcourir toute la maison de long en large. Si ces chiens avaient l'occasion de sortir davantage, je pense que l'intensité en tout cas de ces zoomies serait réduite, on n'aurait pas autant.
Bah écoutez, merci de nous avoir fait bondir en tout cas tout au long de cette heure. C'était passionnant, merci à vous deux. Maintenant, après avoir parlé de domestication des chiens, place aux félins, c'est la chronique avec science avec Alexandra Delbeau. Merci.
Comment les activités humaines affectent l'espace de vie des félins? Selon l'Union internationale pour la conservation de la nature, la moitié des espèces de félins du monde sont menacées. Le lion est classé comme vulnérable, tout comme le léopard. Le jaguar est quasi menacé, le chat des Andes est en danger. Seule bonne nouvelle, le lynx ibérique est revenu à un état vulnérable en 2024, après des années passées en danger critique d'extinction. Preuve d'ailleurs que les politiques de conservation peuvent fonctionner. Mais qu'ils entrent ou non dans ce classement, tous les félins vivent sous des pressions anthropiques, c'est-à-dire que les activités humaines affectent directement ou indirectement leurs habitats, et en écologie, on nomme cet espace le domaine vital. Artemis Moraru est doctorante au LENA, le laboratoire d'écologie des hydrosystèmes naturels et anthropisés à Lyon.
Alors, le domaine vital en écologie, c'est l'espace qu'un animal va utiliser pour vivre. Ça va être pour se nourrir, ça va être pour se reposer, pour se reproduire et élever ses jeunes. Donc, c'est un espace qu'il utilise vraiment régulièrement. Et c'est différent du territoire dans le sens où celui-ci n'est pas strictement défendu. Ce n'est pas vraiment leur territoire. C'est pas si jamais il y a soit un congénère, soit une autre espèce qui rentre dedans, ils vont commencer à l'attaquer. C'est une zone qu'ils utilisent vraiment pour vivre. La taille du domaine vital va dépendre de plusieurs facteurs. Dans un premier temps, des facteurs biologiques. Donc, on va avoir ce qu'on connaît en fait très souvent, le sexe. Donc, les mâles vont avoir tendance à avoir un domaine vital plus grand que les femelles. Également, l'âge et la masse. Plus l'animal va être grand, plus il va avoir besoin d'un domaine vital plus grand, parce qu'il a des besoins énergétiques plus grands et donc va avoir besoin de plus se nourrir.
Or, la taille et la masse des félins varient beaucoup selon les espèces. Entre un petit chat forestier et un tigre, il y a à la louche environ 200 kilos d'écart. Les besoins énergétiques ne sont pas les mêmes, les domaines vitaux non plus, du moins dans leur étendue. Mais si chaque espèce a ses particularités biologiques, elles partagent toutes un même contexte environnemental. Elles vivent dans des paysages de plus en plus transformés par les activités humaines. Alors, au-delà de leurs différences, une question se pose, comment cette pression communes influencent-elles leur domaine vital? C'est précisément ce qu'a voulu étudier cette nouvelle étude parue dans le Journal of Animal Ecology. Et pour suivre des félins dans la nature, on leur place des colliers GPS. Depuis une vingtaine d'années, des centaines d'études suivent ainsi les déplacements de très nombreux animaux, parfois pendant plusieurs mois, voire des années. Toutes ces données sont compilées dans une vaste base mondiale nommée Home Range Database, littéralement en français base de données de domaine vital. Ces cartes de déplacement ont été croisées avec tout un tas de variables liées aux activités humaines. Et résultat, c'est l'agriculture qui réduit le domaine vital des félins.
On sait depuis longtemps que les activités humaines, elles vont impacter les populations animales. Et là, donc, nous, on l'a confirmé, en tout cas à l'échelle du domaine vital. On voit que les cultures et les pâturages vont réduire la taille du domaine vital chez les félins en général. Et ce que nous, on suppose, c'est que c'est lié au fait que les cultures et pâturages vont avoir tendance à être clôturés ou alors entourés de routes, parce que forcément, il faut déplacer ces cultures-là, et que ces routes et clôtures vont en fait enfermer les félins et donc ils ne vont pas avoir accès à cet espace. Et donc, c'est pour ça qu'on parle de réduction du mouvement par l'anthropisation, par les activités humaines. Ils perdent donc l'accès à cet espace qui avant aurait pu être le leur et donc leur domaine vital est réduit dans les zones agricoles.
Cette réduction du domaine vital ne s'explique pas seulement par une diminution de la surface disponible, mais par une contrainte de déplacement. À cause des clôtures et des routes autour des surfaces agricoles en expansion, les félins ne peuvent plus bouger. Les activités humaines modifient donc l'organisation spatiale des félins, et ce, quelle que soit la taille et donc la biologie de l'animal. Cette étude, menée au laboratoire de biométrie et de biologie évolutive à Lyon pendant le master de cette chercheuse, s'appuie sur plus d'un millier de suivis et 29 espèces de félins. Cela montre que le phénomène est mondial, mais il manque encore quelques membres de la famille, comme le chat pêcheur, le chat des pampas ou le chat de palace. L'objectif est de continuer cette étude sur les plus petits félins, qui sont également les moins étudiés. L'enjeu derrière toutes ces cartes et ces données, c'est de mieux orienter les politiques de conservation et donc de déterminer combien d'espaces laisser à ces félins pour qu'ils puissent continuer à vivre à nos côtés.
Merci Alexandra pour votre chronique, merci à vous pour votre écoute. Et merci à toute l'équipe de la Science CQFD, Eve Etienne, Noémie Naguet de Saint-Vulfranc, Antoine Beauchamp, Céline Lozen, Alexandre Morales, Louise Ormond-CJ. À la réalisation, c'était Olivier Bétard. À la technique aujourd'hui, Jean-Guy Namège. Et c'était ce qu'il fallait démontrer à ce jour.